Fortissimo!
Bonjour, aujourd'hui pour cette première de Fortissimo, nous avons l'immense honneur, privilège de recevoir une des voix montantes de la scène française en la personne de Thomas Dollier. Thomas, bonjour.
Bonjour.
Thomas Dollier est un très jeune chanteur puisqu'il est âgé à ce jour de 28 ans.
Encore pour quelques semaines.
Encore pour quelques semaines, nous en parlerons plus tard. Thomas Dollier qui a remporté, comme tout le monde le sait, les victoires de la musique dans la catégorie Révélation lyrique de l'année. Une catégorie qui a vu des stars le précéder, donc qui garantit un avenir brillant. À vrai dire, au-delà de l'aura médiatique de Thomas Dollier à travers ses victoires de la musique, ce qui nous intéresse et ce qui nous intéressera pendant cette émission, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jeune baryton aujourd'hui et plus généralement, qui est Thomas Dollier, d'où vient-il, que fait-il, que veut-il faire et que va-t-il faire. Et puis, en réalité, il faut bien dire une chose, c'est qu'au-delà même du nom de Thomas Dollier, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est sa voix. Puisque, comme vous le savez, Thomas Dollier a une voix de baryton. On catégorisera peut-être un peu plus tard la manière exactement de décrire cette voix. J'aimerais bien que Thomas Dollier le fasse pour nous. Et un baryton, comme à vrai dire, on n'en entend plus tellement en France, c'est-à-dire un baryton châtié, un baryton discipliné, un baryton avec une ligne de chant exemplaire, un baryton intelligible et un baryton qui, même lorsqu'il chante des choses comiques, le fait avec une espèce d'art consommé de la technique vocale et même au-delà de ça, de la diction. Quelque chose qui, je ne veux pas faire le vieux réactionnaire, mais enfin, on ne va pas dire que ça se perd, mais enfin, on n'en entend plus tellement. Et pour commencer, justement, on va entendre Thomas Dollier dans un air comique, hein, on peut dire ça, Thomas.
Ah oui, clairement.
L'air de Dandini dans La Cenerentola. Thomas, racontez-nous un peu comment, dans quelles conditions vous avez chanté cet air, d'où ça sort.
Alors c'est un air que j'ai chanté là dans le cadre d'un récital à Radio France dans le programme Déclic. Donc c'est un récital assez long, un peu plus d'une heure de programme, et essayer de faire quelque chose qui soit à la fois cohérent comme un récital, puisque c'était quelque chose en public, et en même temps le plus varié possible, puisque c'était quelque chose qui serait publié sur disque, un peu une sorte de carte de visite après pour faire un peu la promotion. Voilà. Donc au niveau du programme, c'était un peu la quadrature du cercle, et c'est vrai qu'on a mis cet air d'Andini pour apporter une touche un peu d'abord de musique italienne et ensuite d'opéra et un peu de légèreté.
Ce programme était très très hétéroclite. Hein.
Oui. Je voulais. Moi, c'est un peu mon plaisir dans ce métier, c'est d'essayer de toucher à tous les styles. Donc, il y avait du baroque, du classique, du romantique et du contemporain. Il y avait une création. Il y avait du lead, de la mélodie, de l'opéra. Donc voilà, c'était un peu montrer tout maximum.
Scherzosa corre al giglio, poi salta alla rosa, dolce un fiore a cercare per sé. Fra tante e poi tante, ma non trovo un giudizio, un sembiante, un boccone squisito per me, un boccone squisito per me, un boccone squisito per me. Un boccone squisito. vezzosa, graziosa, di com'è, di com'è. Son tutte papà, son tutte papà. Galopando se ne va la ragione, e fra i colpi in un doppio cannone, spalancata la breccia di già. Già. E fra i colpi in un doppio cannone spalancata e la breccia di già. Vezzosa, graziosa, son tutte papà, son tutte papà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Che tragedia qui nascer dovrà.
Voilà, c'était Thomas Dollier dans l'air de Dandini de la Cenerentola de Rossini. Alors en fait, pendant qu'on a entendu cet air, Thomas Dollier a détruit l'intégralité du studio parce qu'il s'en veut, il s'est arraché les cheveux, il est actuellement en caleçon, car il a repéré dans cet air des pailles d'intonation ou je ne sais quoi qui lui font honte. Alors Thomas Dollier, il faut dire que c'était il y a 2 ans.
Oui,
ça a été capté, et que depuis, vous avez complètement changé de voix, vous êtes devenu ténor léger.
Non, mais bon, c'est toujours la grande frustration quand on réécoute les enregistrements, parce qu'on aimerait changer 2-3 petites choses, et puis voilà, c'est figé. Donc, on
est quand même frappé par le fait que, étant un baryton effectivement plutôt lyrique, avec la ligne de chant dont je parlais tout à l'heure, cet air vous convient extrêmement bien. En termes de couleur vocale, de pas de vocale, évidemment, de vocalisation. Vous souhaiteriez le chanter sur scène, ça vous dirait ?
Oui, c'est un rôle, dans l'univers de Rossini, il n'y a pas beaucoup de rôles pour ma voix, et c'est vrai que celui-là tombe vraiment idéalement dans les notes, dans la tessiture. C'est vraiment un rôle qui va très bien à mon genre de voix, y compris pour l'ambitus et aussi pour les vocalisations et la coloration. Il y a beaucoup de modulation d'harmonie dans la musique de Rossini qui me plaît énormément, et dans ce rôle-là particulièrement. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des modulations, des couleurs, et c'est ça qui donne le sel du personnage, quoi, qui fait que c'est un valet qui prend les habits du grand seigneur et qui du coup en fait un petit peu trop. Mmh. On fait toujours un peu plus que ce que ferait un vrai seigneur dans les faits, et toute la comédie est là, dans ce juste petit décalage. Quoi, c'est pas du lourd, du comique lourd, quoi. C'est tout en quand même en subtilité. Donc
Alors Thomas, en fait, vous dites vocalisation, coloration, etc. On parle de choses assez techniques. Vous, votre voix, vous la définissez comment, au-delà du fait que vous êtes un baryton?
C'est la base. C'est toujours difficile de définir trop précisément, quoi, surtout à mon âge, parce que la voix est toujours en changement et en évolution en tout cas. Et je, plus que de définir, j'essaie un peu de prévoir, de prédire. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de savoir quelle est la voix aujourd'hui, mais vers quoi va aller la voix. Et ça, c'est complètement ouvert. Donc pour l'instant, moi je me définis comme un baryton lyrique, c'est-à-dire un baryton central. Je suis pas un baryton particulièrement aigu, je suis pas un baryton particulièrement grave, et je suis pas non plus un baryton particulièrement puissant. Donc c'est vraiment la moyenne, quoi, la bonne moyenne. Donc après, au-delà de ça, ça peut évoluer dans une direction comme dans l'autre. Sur les quelques années, ça fait 5-6 ans que je chante maintenant, j'ai l'impression que ça dirige plutôt vers un lyrique éventuellement un petit peu plus large, plus que de monter vers des tessitures de baryton martin, de baryton français, ce que mm-hmm. je pensais au départ. Mm-hmm. Je pense que maintenant, ma voix est plutôt en train de se développer vers le médium, quoi.
Ah d'accord, et donc vous prêterez effectivement particulièrement à ce genre de rôle central, mais aussi avec une incarnation scénique toujours assez prononcée en fait, puisque dans ce registre, la personnalité compte beaucoup.
Oui, bien sûr.
Et vous, par tempérament, vous vous sentez proche de rôles comiques ou un peu dans ce genre-là, ou vous avez une attirance plus forte pour les rôles nobles
Pas vraiment, en fait moi mon attirance, et je pense que c'est ça, enfin, ce que vous avez dit dans la présentation, ça me touche beaucoup, parce que je pense que c'est assez juste, en tout cas ça me parle.
Merci.
C'est ma vocation de chanteur, elle vient vraiment de la musique. Je pense qu'il y a deux types de chanteurs en gros à l'opéra, ceux qui sont venus là par goût du théâtre et ceux qui sont venus là par goût de la musique. Il y en a qui sont venus par goût des deux dès le départ, mais en général on a une préférence et puis on découvre l'autre mm-hmm. en apprenant et puis on finit par aimer les deux. Mais moi au départ je suis vraiment venu par la musique, et donc les rôles comme ça avec une grande charge théâtrale sont pas vraiment dans mon attirance immédiate, mais du coup voilà, d'y apporter cette sensibilité un peu musicale, c'est très intéressant.
Alors Thomas, on sait que vous êtes beaucoup engagé dans le répertoire mozartien. C'est peut-être un héritage de votre professeur Yvonne Minton. Je vous propose qu'on entende tout de suite Yvonne Minton dans un de ses rôles fétiches, qui est le rôle de Dorabella, ici dans l'enregistrement réalisé avec Klemperer. Thank you. Voilà, Yvonne Minton dans le rôle de Dorabella, sous la direction de Klemperer. On entend chez Yvonne Minton, on connaît chez Yvonne Minton une voix très dense, une voix très colorée, fruitée. Et après avoir écouté le Dandini, on retrouve des caractéristiques identiques chez vous. Quelque chose de concentré dans la voix, de coloré dans la voix. Ouais. C'est un hasard, c'est une technique.
C'est pas du tout un hasard, non. C'est vraiment la façon qu'elle a de travailler. Et je pense que là où on s'est bien trouvé, c'est que ça correspondait à mes faiblesses naturelles. C'est-à-dire, ce qu'elle m'a apporté m'a vraiment permis de régler des soucis, justement, au niveau de la densité de la voix et de façon de chanter un peu toujours dans la légèreté, dans la, oui, dans la liquidité un peu. Et avec, en travaillant avec Yvonne, j'ai retrouvé vraiment une force, un impact, une projection, et quelque chose qui ne se fait jamais ni au détriment de la richesse du timbre, ni surtout au détriment du texte. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement dans le travail avec elle. C'est que tout le travail technique se construit intégralement sur le texte, sur la qualité des voyelles et des consonnes.
Et est-ce qu'avec elle, vous avez chanté totalement en privé des choses inavouables? Est-ce que vous avez fait les adieux de Votan? Est-ce que...
Non. Elle m'a chanté des choses inavouables en privé. Oui. On a fait le duo Guglielmo Dorabella en privé. C'était un grand moment. C'était c'est très très émouvant. Mais non. Au contraire, c'est quelqu'un d'extraordinairement prudent quand il s'agit de mon répertoire.
Elle vous a interdit des choses.
C'est-à-dire que je l'ai rencontrée quand je suis rentré au CNIPAL. Elle venait donner masterclass au CNIPAL et on a développé une relation depuis, on continue à travailler très régulièrement.
Vous travaillez où avec elle?
On se connaît bien, chez elle à Londres. Mm-hmm. Et donc là, elle disait, à l'époque j'avais 22 ans, je commençais à avoir mes premiers engagements et pour elle c'était vraiment très 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 risqué. Et elle disait que pendant 5-6 ans, je ne devais faire que du concert et ne pas monter sur scène, quoi. Et parce que dès qu'on est sur scène, dès qu'on joue, on pousse, comme on dit.
Et qu'est-ce qu'elle pense de vos incursions baroques?
Elle en pense beaucoup du bien. Elle a fait elle-même un peu de baroque, mm-hmm. une opéra de Cavalli, je sais notamment, qui est enregistrée. Alors le baroque, c'est toujours difficile parce que dès qu'on aborde des questions stylistiques, les chanteurs de cette génération-là sont pas du tout au fait, quoi. Donc
voire méfiants, non?
Non, elle est pas. Mais certains sont méfiants, mais elle est pas du tout méfiante. En plus, comme c'est j'ai souvent fait du baroque français et qu'elle maîtrise pas du tout ni la langue vraiment, ni le style particulier de cette musique-là, elle me fait complètement confiance et on a vraiment un travail qui est à la fois un travail de fond, c'est-à-dire sur de la technique pure, sans vraiment parler de répertoire ou de style, simplement vocalement. Mm-hmm. Et ensuite, au niveau du style ou dans certains passages, elle a une démarche d'aide, c'est-à-dire que je viens la voir sur des problèmes, sur des passages qui coincent, et puis on voit comment on peut résoudre ça. Mais je veux pas... Tout ne vient pas d'elle. Quoi. Mmh. Voilà.
Alors, vous savez que cette émission est destinée à des fous furieux.
Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai beaucoup révisé.
Qui écoute l'art lyrique avec la patience d'un pédiatre qui ausculte un jeune catareux.
Bien.
Alors, la technique, selon... Voilà, on va parler technique.
Okay.
On va ouvrir le capot. la technique vocale de Thomas Dollier, c'est quoi? C'est quoi les fondamentaux absolus de votre technique vocale? Alors les non-fous furieux peuvent immédiatement couper leur poste.
Les fondamentaux, c'est... Comment dire? C'est deux choses. C'est premièrement la respiration, deuxièmement le texte, ce que je disais tout à l'heure. C'est la grande théorie d'Yvonne, et c'est un grand pari. Mais c'est de dire qu'entre la respiration, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la prise d'air et de l'expiration d'air, puisque chanter, finalement, ce n'est jamais qu'expirer de l'air, donc ce qui se passe au niveau de la respiration, donc au niveau du ventre, et ensuite ce qui se passe au niveau de l'articulation, c'est-à-dire au niveau des dents et de la projection, c'est-à-dire à l'extérieur, entre ça, il faut surtout ne penser à rien. Ne pas chercher à contrôler ni sa mâchoire, ni son palais, ni ses cordes vocales particulièrement. Mm-hmm. Parce que dès qu'on fait quelque chose en pensant à ce niveau-là, on crée une tension. Donc tout se construit par l'extérieur, si vous voulez. C'est comme un marionnettiste qui tire les fils en dehors du théâtre, et la marionnette vide elle-même toute seule. Ses mouvements se font toute seule. Il ne va pas prendre le bras de la marionnettiste pour le faire bouger. On ne va pas prendre sa mâchoire pour... Voilà, mm-hmm. C'est un peu comme ça que je définirais.
Ah, très bien.
Donc c'est très intéressant parce que du coup, on ne lutte jamais contre le texte. Le texte ne vient jamais casser la ligne ou ne vient jamais casser le timbre parce qu'on a un ou un i à faire. Du coup, on se dit on va assécher la voix ou au contraire. On apprend tout le temps à garder la voix la plus riche, la plus pleine possible tout en ayant une voyelle très très claire.
Mais alors vous, cette expression du texte, ça correspond aussi à votre sensibilité pré-opéra, puisque,
oui.
Puisque vous avouez une tendance coupable pour la chansonnette.
Enfin, bon. Disons que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de certains chanteurs français, peut-être d'une génération un peu plus ancienne, qui était vraiment cette génération de diseurs et de diseuses, quoi, où on comprend que finalement la compréhension, ce qui fait que le public comprend ce qu'on dit quand on chante, c'est finalement peut-être à 40-50% une question d'articulation.
Oui, oui. D'ailleurs,
c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas l'articulation.
C'est très frappant, hein, comme je disais tout à l'heure, à quel point on vous comprend quand vous chantez. Enfin, mais c'est plus que de la diction. Hein. Il y a quelque chose de.
Pour moi, le problème n'est pas vraiment la diction. C'est vraiment du phrasé du texte.
C'est ça.
C'est-à-dire. Comprendre le sens d'abord de manière tellement intérieure qu'on se pose même plus de questions, qu'on sait exactement pourquoi on dit, et ensuite ça passe par des micro-retards, des micro-accents, des choses toutes petites et très fines qui font qu'on va vraiment comprendre qu'on nous raconte une histoire, et ça les chanteurs comme Colette Mani ou Monique Morelli ou des gens comme ça font ça à merveille, ou Yvette Guilbert évidemment pour remonter encore plus loin.
Et oui, alors là vous nous avez apporté Colette Mani,
oui.
dont j'ignore jusqu'à l'existence, et sur la couverture du disque, elle a un petit air de Christelle Ludwig avec quelques kilos en plus.
Et encore, c'est une photo où elle était jeune, donc.
Ah, d'accord.
Parce que les photos, elle publiait encore beaucoup plus de kilos.
Ah oui, elle a fini au-delà du quintal.
Oui, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui a une voix très, très grave.
Oui.
Qui a une double carrière, ou un double répertoire. C'est-à-dire qu'elle a fait à la fois de la chanson et sa grande spécialité, c'était de mettre en musique des poèmes. Et donc là, la chanson que j'avais envie d'écouter, c'est un poème de Victor Hugo.
Les Tuileries. D'accord.
Voilà. Elle a aussi mis en musique d'autres poèmes de Victor Hugo, du Aragon, plein de choses. Et à côté de ça, elle a fait du free jazz.
Ah, très bien.
Et alors ça, c'est complètement délirant. Elle pousse des cris. C'est très étonnant.
Et alors, donc là, c'est un disque dont j'ai l'impression qu'il a été enregistré en 1964. Est-ce que vous pouvez nous dire, Thomas Dollier, chez cette dame Colette Mani, ce que vous avez appris ?
J'ai appris l'économie de l'effet. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est une chanson qui est une chanson strophique. Et pourtant, on s'ennuie pas. Elle en fait pas des tonnes, mais on s'ennuie jamais. C'est une chanson qui raconte pas vraiment une histoire, mais qui décrit un état de fait. Et par simplement des toutes petites différences dans le phrasé, justement du texte, elle crée un univers différent à chaque strophe par des choses très très fines. Et moi, c'est ça que j'ai appris de ces gens-là, de tous ces chanteurs-là. C'est que musicalement, c'est pas très compliqué. Vocalement, c'est pas du tout démonstratif. On n'est pas du tout dans la performance comme on peut être à l'opéra. Et en même temps, on crée un univers, on fait de la couleur et on dit du texte. Voilà. Et ça, je l'ai vraiment appris de cet univers-là.
Bon, on écoute Colette Mani dans Les Tuileries.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres. Nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme tremble en uniforme. Sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme. On n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau au sans nos caprices, jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Voilà, donc c'était Colette Magny dans Les Tuileries, sur un poème de
Victor Hugo.
Victor Hugo. Alors Victor Hugo, qui est le contemporain de Colette Magny. Et Colette Magny, hélas, nous a quittés en 1912. Donc Thomas Delier, comment faites-vous pour fréquenter de telles vieilleries inadmissibles ?
Bon, ça, c'est l'univers familial. Hein. C'est ce qui s'écoutait dans ma famille quand j'étais enfant. Donc voilà, j'ai été bercé là-dedans, la chanson. Mais enfin, je vous ai cité et j'ai amené Colette Magny parce que c'est des gens qu'on connaît peu et qu'on entend rarement. Et donc voilà, c'est pour faire un peu.
Oui, puis si vous aviez amené Madonna, on serait mal
également,
au niveau des droits.
Il y avait également dans la série des petits jeunes qui débutent, il y avait également Brassens, Ferré, Barbara,
ah oui, d'accord.
Tout cet univers-là, je le mets. Pour moi, c'est le même univers.
Ça nous met quand même quelques générations avant vous.
Oui, ben oui.
Mais enfin, Mozart aussi.
Exactement.
Alors, et vos parents, ils étaient enchantés de vous voir rentrer au conservatoire de Bordeaux ou ils étaient complètement
réticents?
Pas
tout à fait. Mon père est un grand mélomane qui aimait à peu près tout ce qui se fait en musique, à part l'opéra.
Ah.
Musique classique, musique du monde, jazz, blues, rock. Mais l'opéra, pas vraiment.
C'est un 68 art affirmé ou pas du tout?
Non, c'était génération un peu après. Il avait 14 ans en 68, donc pas vraiment un 68 art, mais oui, un peu cet esprit-là. Ouais. Et l'opéra, il connaissait Pélias et Mélisande.
Ah.
C'était le seul opéra qu'il écoutait. Donc voilà, ça donne un peu le portrait. Et ma mère était très chanson, justement. Voilà, la partie chanson vient plus de ma mère.
Mais alors maintenant que vous êtes devenue une vedette grâce aux Victoires de la musique, ça a changé votre vie ? Ça, c'est la question people. Thomas Delier, question
de
people. Votre
vie
a changé depuis les Victoires de la musique ? Alors moi, j'ai
pas
quand même
vraiment
quelque chose que je dois dire, c'est que... Bon, moi, je suis d'une autre génération que vous, évidemment, mais je me demande quand même pourquoi vous avez chanté aux Victoires de la musique sans cravate.
Alors, c'est un principe... Je ne mets jamais de cravate.
Alors Thomas Delier ne met jamais de cravate. Ça,
non,
c'est
jamais. Jamais.
Ce sera le titre de
mon autobiographie.
De l'autobiographie. Je ne mets jamais de cravate.
Je ne mets jamais de cravate.
Parce que ça vous sert la gorge
plus,
ou...
Non, alors non, enfin... Non, parce qu'en même de papillon, ça sert la gorge aussi. Mais sauf quand c'est un costume de scène, évidemment, là, j'ai rien à dire, donc je mets une cravate. Mais c'est un élément de décoration vestimentaire dont je n'ai jamais vraiment compris ni la signification, ni l'intérêt, ni le côté esthétique.
Bah, c'est-à-dire que pour s'essuyer la bouche au restaurant, ça reste quand même assez pratique.
Ouais, non, je sais pas.
Donc c'est pas une rébellion affichée en disant.
Alors non, alors
je
par
casse
contre,
les codes.
Par contre, là où j'étais, un petit peu, mais ça n'a pas de volonté. Autre que personnel, quoi. C'est mon choix, mon goût, mon envie. Là où j'étais très content, par contre, c'est que j'ai trouvé une chemise qui n'était pas faite pour mettre ni une cravate ni un nœud papillon. Hein. C'est une chemise exprès qui ne se ferme pas avec un col particulier. Vous regarderez bien la vidéo.
C'est de quelle marque ?
C'est Givenchy.
Wow. Voilà. Donc Thomas Delier était déjà très riche avant de gagner les Victoires de la musique et maintenant il est multimilliardaire. Est-ce que, franchement, vous avez découvert une autre face de votre métier en gagnant cette récompense ?
Pas vraiment, non.
Est-ce que vous avez découvert des amis que vous ne vous connaissiez pas, des admirateurs frénétiques ?
Non, pas vraiment, non. Moi, je vois pas vraiment de changement. J'étais très très heureux pour toute ma famille, parce que j'ai une partie de ma famille qui vit assez loin des milieux de l'opéra, dans la campagne, ils connaissent pas vraiment la musique classique, tout ça, et c'est vrai que pour eux de voir quelque chose comme ça à la télé, ça, tout d'un coup, ça voulait dire quelque chose, quoi. Ils étaient très très fiers, ils ont aussi compris pourquoi ça faisait longtemps que j'étais pas venu les voir ou des choses comme ça, et ça, c'était très très touchant pour moi de sentir ça, quoi. Pour eux, ça voulait presque dire quelque chose plus pour eux que pour moi, vraiment. Après, C'est tout, ça fait toujours plaisir, hein, c'est sûr. Mais l'émotion est venue sur le moment, je l'attendais pas. Quoi.
Alors, il pleut des cordes oui. sur Paris, comme vous pouvez l'entendre. Et les canalisations vont bientôt exploser dans le studio. Donc, Thomas, vous avez dit tout à l'heure, vous pensez à l'évolution de votre voix.
Oui.
Et Simon Kinleyside a déclaré récemment dans une excellente revue d'opéra qui s'appelle forumopera.com, il a déclaré que les rôles mozartiens étaient peut-être les plus risqués pour une jeune voix de baryton. Par leur poids, par exemple chez Papageno, l'alternance du parler et du chanter, est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous en trouvez très bien ?
Mais alors Papageno c'est particulier parce que c'est un rôle, moi je dirais c'est un rôle qui est idéal pour débuter sur scène à un certain niveau, c'est-à-dire que quand on a fait quelques seconds rôles, c'est un premier plan parfait. Dans le sens où vocalement, on est quand même relativement tout le temps en confort. On n'est jamais vraiment mis en danger. Et le seul danger qui existe vraiment, c'est la fatigue. Parce que le rôle est très long, est très physique, et il y a beaucoup de scènes parlées. Donc on apprend très bien à gérer l'énergie sur une longue distance. C'est vraiment l'inverse de la Reine de la Nuit. Quoi. Alors comme c'est dans le même opéra, c'est particulièrement flagrant, on discute toujours avec la Reine de la Nuit, puis on se rend compte au bout de 10 minutes qu'on fait vraiment deux métiers complètement différents dans cet opéra-là. Donc c'est vraiment l'inverse. Donc c'est un premier plan idéal. C'est peut-être pas le rôle des débuts parfait. C'est vrai que les premiers Papageno que j'ai fait, moi c'était mes premiers engagements et c'était un peu le baptême du feu, mais c'est oui non c'est un rôle, c'est un cap en tout cas. Après les autres rôles mozartiens, oui, pour moi sont des rôles délicats de manière différente pour chacun. Et là, je suis en train de songer à en aborder quelques-uns, justement, et c'est
comme
alors justement la question se pose entre le comte et Don Giovanni. Et on a des fois des désaccords quand on discute. Alors moi, je pense, mon opinion, c'est que la jeunesse est moins gênante pour Don Giovanni que pour le comte.
Oui.
Donc je pense que scéniquement, au niveau des sentiments, de la psychologie du personnage, le comte est un personnage plus de recul, quoi, qui est un peu plus sur le retour. Donc on a besoin d'un chanteur peut-être un peu plus mûr.
Bon alors, Thomas Dollier, on va achever cette émission avec une épreuve assez facile pour vous. On n'a pas parlé de votre goût pour la mélodie, on ne peut pas parler de tout.
Oui.
Peut-être que vous reviendrez, je l'espère fortement.
Avec plaisir.
Et de toute façon, on va vous entendre dans quelques minutes dans ce répertoire que vous maîtrisez parfaitement. Non mais vraiment, enfin, c'est quand même assez fantastique ce que j'ai pu entendre dans ce domaine. Nous saluons l'entrée dans le studio de Camille Derech qui a fait grincer la porte comme ce n'est pas permis.
Bonjour.
Et qui a maigri énormément. Et
bonjour à tous.
Et Thomas, maintenant, nous allons vous demander quelque chose qui finalement est assez simple pour vous. Est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose ?
Là, maintenant ?
Voilà, alors ça, c'est toujours pareil. J'aurais ici un athlète qui court le 100 mètres, il courrait le 100 mètres, mais les chanteurs refusent toujours de chanter. Non, ne chantez rien, on va vous écouter.
Oui, c'est mieux, on a les 10.
Enfin, vous pouvez chanter bien. Une chanson.
Ah, une chanson
Une chanson de Brassens.
J'ai rien...
Garogori. Toi, Camille, tu connais bien Brassens ? Camille ne connaît rien.
J'ai fait une série de
la chanson belge.
Je viens prendre le micro de Sylvain deux minutes pour rappeler que nous n'avons pas prévu de cachet pour Thomas Dollier. C'est quand même tout à fait naturel qu'il refuse de chanter. Nous avons d'ailleurs un appel de son agent qui est très fâché.
Non, mais c'était très, très curieux. J'ai fait une série de récitals et j'avais fait en dernier bis, justement une chanson de Brassens.
Alors.
C'était la légende de la nonne qui est aussi sur un poème de Victor Hugo. Et je la présentais en disant une mélodie sur un texte de Victor Hugo mis en musique par Georges Brassens.
Et je l'ai
chanté ensuite. Et les gens, après, venaient me demander qui était le compositeur de ces derniers morceaux. Et je disais, mais c'est Georges Brassens, comme je l'ai dit. Quoi. Mais les gens n'avaient pas entendu, parce que dans ce contexte-là du récital classique, ils ne pouvaient pas entendre le nom Georges Brassens dans un bis comme ça de récital.
Et vous ne portiez pas de cravate ce jour-là ?
Non plus, bien
voilà,
sûr.
Voilà, donc Thomas Dollier, le rebelle de l'art lyrique. Nous allons vous écouter maintenant pour conclure dans un très beau moment des nuits d'été.
Voilà, c'est L'île inconnue.
L'île inconnue, captée par la radio suisse lors d'un récital... amateur au festival de la vieille charrue.
Dites la jeune belle, où voulez-vous aller? La voile enflait sonneur. le pavillon de moire, le gouvernail d'Orsay. J'ai pour l'est une orange, pour voile une étange, pour nous ça sera fin. J'ai pour l'est une orange, belle, où voulez-vous aller? La voile enfle son aile, la brise va souffler. La voile enfle son aile, la brise va souffler. Et c'est dans la Baltique, dans la mer Pacifique, dans l'île de Java, est-ce en Norvège cueillir la fleur de neige ou la fleur d'Amzaka? Dites, la jeune belle, dites, où voulez-vous aller? Menez-moi, dit la belle, à la rive fidèle, où l'on aime toujours. Cette rive, ma chère, on ne la connaît guère. Cette rive, ma chère, on ne la connaît guère. Au pays des amours, on ne la connaît guère. On ne la connaît qu'elle, au pays des amours. Où voulez-vous aller?
Voilà, c'était Thomas Dollier dans L'île inconnue des nuits d'été de Berlioz avec l'orchestre de la basse Westphalie. Donc Thomas, merci infiniment. Merci infiniment. Nous espérons, nous avons abordé en fait un nombre de sujets très restreints.
Eh oui.
Nous parlerons bientôt de votre prise de rôle dans Wotan de la Valkyrie et puis évidemment.
À l'escalade Melun.
Et il faudra revenir nous parler de Schubert.
Oui. Avec grand plaisir.
Et puis la prochaine fois, vous viendrez avec Yvonne Minton.
Ah bah oui, oui.
Qui sera notre invité spécial. Yvonne Minton est le professeur de Thomas.
Comment va-t-elle?
Bah très bien.
Voilà.
Et donc, on salue Yvonne.
On salue Yvonne. Et donc l'orchestre de Basse Westphalie était dirigé par Rudolf Minton, qui est le neveu de Yvonne. Thomas, merci encore. Merci.
Sylvain, si vous me permettez d'intervenir, je suis un peu catastrophé du ton de cette interview que je saisis au vol. J'espère que vous avez posé quelques questions sérieuses à l'heure.
On m'a dit qu'elle était destinée, à Radio Classique. Je l'ai donc totalement, totalement cadré pour. Merci encore, Thomas. Bon,
merci à vous.
Bon retour à Melun.
Oui.
Et à très bientôt.
À très bientôt.